times.
Les radios libres sont en lutte. À l'occasion du passage à la radio numérique terrestre, qui met en danger toutes les radios associatives non commerciales, une mobilisation se monte pour expliquer les enjeux et faire valoir nos revendications. Vous trouverez toutes les infos sur le site radiosenlutte.free.fr.
Et puis après tout, on en a vu d'autres.
Quand j'écoute ma radio sous la douche, je me dis souvent, ça serait quand même pas mal si sur mon poste il y avait un écran avec de la pub dessus. Il paraît qu'avec la radio numérique, ça va être possible.
Avec le passage des radios numériques, on craint beaucoup plus d'accidents à la queue de François.
Plus d'infos sur la radio numérique et pétitions à signer en soutien aux radios libres non commerciales sur radiosenlutte.free.fr.
Radiosenlutte.free.fr.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3. Donc, on se retrouve pour une émission spéciale ce soir autour de la radio numérique terrestre puisque il y a des choses qui se mettent en place. Donc voilà, on est pour une heure et demie ensemble, donc on va un petit peu vous donner les dernières nouvelles, on va dire, par rapport à la radio numérique terrestre. Si vous écoutez la radio, vous savez qu'on en parle beaucoup, mais là, ces derniers temps, il y a des choses qui se mettent un petit peu en place. Donc on va un petit peu vous parler un peu de tout ça. Commencer peut-être un petit peu par un petit historique des radios libres et puis pourquoi on en arrive là, quoi, en gros, hein. On va commencer un petit peu par là.
Oui, alors en fait la question s'adresse collectivement en fait à tout le monde, c'est-à-dire comment fonctionnaient les radios libres jusqu'à maintenant. C'est assez simple. Nos radios à nous sont des radios qui étaient des radios commerciales, non commerciales en fait, et donc qui étaient financées par le fonds de soutien
à l'expression radiophonique.
Ce qui est en train de changer. Bon, alors je suis pas un spécialiste des radios, mais jusqu'à maintenant, en fait, il y avait une libéralisation des ondes.
Alors, il faut peut-être revenir un petit peu plus avant que la radio soit libre, justement, hein, c'est-à-dire avant les années 80. Avant les années 80, les radios qui étaient sur le territoire français ne pouvaient être que nationales. Et il y avait d'autres radios commerciales qui se sont installées, qu'on a appelées périphériques, parce que leur antenne était à l'extérieur des frontières. Donc c'est Radio Luxembourg, c'est Europe 1, c'est Monte Carlo, qui émettaient en grandes ondes parce que les grandes ondes permettaient de couvrir une grande surface du territoire avec une qualité, faut bien dire, assez médiocre, hein, c'est de la modulation d'amplitude, mais ça permettait, avec des antennes très puissantes, une pollution, on peut dire maintenant, aux alentours de l'antenne qui n'était pas négligeable, et ça permettait donc à ces gens-là d'émettre, de faire des émissions, d'avoir eu un autre discours que le discours de la radio nationale d'État. Et ça se situait donc aux extérieurs des frontières. Et puis, il y a eu le progrès de la modulation de fréquence. La modulation de fréquence apportait une grande qualité technique. Il n'y avait que les radios nationales. Mais là, les postes ont demandé aussi, les autres stations, à profiter de cette qualité, à profiter de ce progrès. Et là, par contre, il leur fallait une autorisation d'avoir les émetteurs dans le territoire. Alors, moi, je ne me souviens plus très bien s'il n'y a pas eu deux phases, il me semble. D'abord, l'autorisation de certaines radios, les grandes radios dites périphériques, à occuper l'espace de la modulation de fréquence.
Alors, on parle là des Europe 1 et des radios qu'on connaît aujourd'hui. Hein, qui sont
celles qu'on appelle encore périphériques. Enfin, je ne sais pas si on les appelle encore toujours comme ça, radios périphériques.
Enfin, c'est intéressant de savoir que
Europe
1 est né...
Le terme, il est dû au fait que l'antenne était à l'extérieur.
Voilà. Europe 1 était plus ou moins illégal, en fait, finalement, au tout début, d'une certaine façon.
C'était légal.
Donc, ils contournaient
c'était légal, mais parce que l'antenne ne pouvait pas être en France, ils émettaient en dehors de la France.
Voilà. D'accord, et c'est devenu, effectivement, donc, on a d'abord autorisé plus ou moins les radios périphériques à émettre. dans un premier temps.
Dans un premier temps. Et puis est venue l'envie de liberté, un petit peu, de vouloir aussi s'exprimer, de vouloir faire sa propre radio. Donc là, à ce moment-là, on n'appelait pas ça les radios libres, mais les radios pirates. Ça a commencé essentiellement avec la musique, c'est-à-dire qu'une certaine musique n'était pas représentée sur les ondes. Et c'était une musique anglo-saxonne, de la base de rock essentiellement. Et il y a eu donc des bateaux émetteurs, des bateaux qui étaient des véritables poubelles en tant que bateaux, mais qui n'avaient pas besoin de naviguer beaucoup, qui étaient un petit peu en dehors des eaux nationales et qui permettaient d'arroser en modulation de fréquence des programmes musicaux anglo-saxons. Et puis ça s'est généralisé, les gens ont dit « mais on veut faire de la radio ». Et il y a eu là, un petit peu, donc, les années 79-80, l'explosion de ces radios qui commencent à devoir s'appeler libres, mais enfin qui étaient pas du tout autorisées. Avec, à l'époque, le CSA n'existait pas. Ceux qui étaient chargés de faire le contrôle et la régulation des ondes, c'était le ministère des Télécommunications. Donc, ils faisaient la chasse aux antennes. Quand une antenne était piquée, elle était confisquée, bien entendu, avec le matériel. L'avantage de la modulation de fréquence, surtout avec des faibles portées, c'est que le matériel ne coûte pas trop cher. Ça coûte quand même des ronds à des gens qui font ça que par passion et qui n'avaient pas d'autres moyens.
Il y avait la possibilité, il y avait des sacrés bricoleurs parce qu'on pouvait...
Il y avait des sacrés bricoleurs, avec quand même un inconvénient. C'est-à-dire que sur les années, on va dire 80, surtout dans la région parisienne, on pouvait plus entendre proprement une seule station de radio parce que tout le monde se mordait les uns sur les autres. Hein. Donc là, il y avait quand même un petit souci. Mais il y avait une espèce d'expression et de toute façon, il y avait une demande générale, je crois, des gens d'avoir accès aux radios libres.
Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que la modulation de fréquence a libéré les ondes avant l'heure, puisqu'elle a permis une éclosion de toute une sorte d'une pléiade de radio dans un paysage radiophonique qui était très très contrôlé à l'époque. C'était l'ORT.
Et donc, après, il y a donc l'ère mitterrandienne. Mais je pense que si ça avait été n'importe quel autre, de toute façon, ça, c'est pareil. Dans les autres pays européens, il y avait le même phénomène. Et donc, les gouvernants étaient obligés de tenir compte de cette demande qui devenait de plus en plus pressante d'avoir des radios et d'y mettre bon ordre. Donc il a été décidé par voie de loi, je crois, qu'on allait autoriser effectivement les radios à occuper la modulation de fréquence, mais de manière à ce que tout le monde puisse être entendu et que les programmes restent de facture convenable, c'est-à-dire qu'il y a, c'est quand même un espace public dans lequel il est rappelé qu'on ne doit pas insulter les gens, on ne doit pas les diffamer, on ne doit pas... Voilà. Mais ce qui n'empêche pas la critique, bien entendu. Donc, il a été admis... il est admis aussi, il y a des commerciaux, des gens qui disent « mais nous, on veut faire de la publicité, on a aussi des choses comme ça, et des choses plus particulières, faire une thématique plus précise. » Donc, ces gens-là considéraient que le financement par la publicité devait y aller, mais suffisait, mais ils voulaient une place. Et puis, il y a toutes les radios libres. Là, on leur a demandé de faire un projet qui soit construit sur le plan radiophonique. Et il a été adopté un système de financement, qui est le fameux SFER, c'est-à-dire qui permet de garantir ce financement, l'indépendance de ces radios. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste en une taxe qui est prélevée sur les publicités des radios, des médias, radio, télévision. Cette taxe étant prélevée sur le chiffre d'affaires dû à la publicité. Donc c'est quand même la publicité. Mais c'est une taxe.
C'est le paradoxe d'ailleurs.
Oui, c'est pas le paradoxe. On a considéré que c'était de toute façon la publicité qui devait financer toutes les radios. Mais ce qui permet de garder l'indépendance, c'est le fait que c'est relevé par l'État, par le fisc, donc, et redistribué en fonction de l'importance, plus ou moins du nombre d'auditeurs. Je ne sais pas trop exactement quel mode de redistribution. Mais en fait, normalement, il n'est pas dû au contenu, à partir du moment où on respecte le cahier des charges, ou si on a des émissions communautaires, on respecte un certain temps communautaire. Si on a déclaré qu'on faisait des émissions de débat, il doit y avoir des débats également pour certaines... Enfin voilà, à condition de respecter un certain cahier des charges, hein, normalement est attribué donc une somme qui n'est pas liée directement à la dépense que doit faire la radio, hein, mais qui, en pratique, permet de payer la diffusion, on va dire, globalement. Hein, ce qui n'est pas la charge totale d'une radio. Les radios doivent trouver d'autres modes de financement, peut-être d'autres subventions, tout ça. Alors,
il y a aussi d'autres... Enfin, oui, c'est les subventions qui sont effectivement distribuées par le FSER, mais il y a quand même des subventions d'équipement, subventions annuelles de fonctionnement.
Il y a d'autres modes de financement par subvention, effectivement. Hein. La plus grosse étant quand même le SFER. Donc, qui est payé par publicité, mais indirectement, c'est-à-dire que là, c'est payé après, en tant que subvention, par l'État. C'est-à-dire qu'un publicitaire, ou une marque de produit, ne peut pas avoir une influence, ne peut pas dire, mais moi, je paye une taxe, donc on doit parler de mon produit.
Alors, on appelle ça la taxe parafiscale.
Enfin, on appelle ça une taxe parafiscale, absolument.
Donc, c'est vrai que c'est un mode qu'on peut critiquer, peut-être, mais finalement, c'est aussi un mode qui consiste à faire payer aux grands groupes, c'est un peu ça, hein, aux grands groupes publicitaires de redistribuer un petit peu, d'autant qu'elle est plafonnée, je crois bien, cette taxe.
Elle est plafonnée,
de faire vivre le secteur associatif. Mais
est-ce que ça n'a pas été aussi un deal, j'allais dire, on a vu, hein, quand ce qui s'est passé notamment avec Énergie, avec la grosse manifestation, est-ce que ça n'a pas été donnant-donnant en disant, écoutez, on donne un petit peu aux radios associatives, comme ça, nous, de l'autre côté, on pourra balancer maximum, on pourra faire des réseaux, etc., etc. Parce qu'en même temps, moi, j'ai cette impression que ça a été un peu ça, qu'on donne une petite subvention, on va dire, aux radios associatives non commerciales, puis nous, de l'autre côté, on pourra continuer à faire des réseaux et s'étendre un petit peu partout en France, quoi. Est-ce que, moi, je pense que.
Non, je pense que le deal, il était surtout aussi technique. C'est-à-dire que les radios commerciales, à partir du moment où ils avaient l'autorisation, ne voulaient pas être polluées, c'est-à-dire parasitées par une radio à côté. Et fait de nous donner une subvention assez importante, hein, permettait de dire aussi aux gens qui nous contrôlaient, attention, on vous a donné de l'argent, maintenant techniquement, vous avez le droit à telle puissance, vous ne devez pas dépasser tel lobe d'émission, vous devez... Et donc, de manière à ce que les gens émettent sur leur canal, ne viennent pas baver sur l'autre, ne viennent pas parasiter. Le moins possible. Il y a toujours des petits problèmes. Il peut y avoir des problèmes techniques, hein, d'ailleurs, indépendamment de la volonté des gens. Hein. C'est quelque chose qui est très surveillé, en tout cas dans la région parisienne, hein, je peux le dire.
Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que du coup, les radios pirates, elles ont presque disparu et la chasse a été beaucoup plus intense et plus évidemment plus sévère.
Oui, puisque les radios pirates ont eu un certain temps pour déposer un dossier. Un petit peu comme ce qui se passe à l'heure actuelle pour les RNT, de déposer un dossier, il y a un jury qui s'est composé, qui a déterminé que tel projet était intéressant, tel autre ne l'était pas. Après, pour d'autres projets, ils ont dit, mais tiens, ces projets-là, ils sont assez ressemblants, on va inciter les gens à se rassembler pour faire qu'une seule radio. Il y a eu aussi ce genre de
et il y a eu toujours, ce qui est toujours aujourd'hui, les partages de fréquences, puisqu'on connaît quatre radios qui aujourd'hui continuent à partager leurs fréquences.
Oui, certaines radios avaient un projet qui disait, bon, ben vous, si vous utilisez que 12 heures par jour, c'est suffisant. Donc, il y en a une autre aussi, qui ne fait pas un programme réellement concurrent, mais qui peut être différent, vous accordez sur les horaires, hein, et à ce moment-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle une fréquence partagée.
Alors, il est intéressant de noter quand même que la pub a été autorisée à hauteur de 20%. Au maximum, c'est-à-dire qu'on pouvait être une radio associative et diffuser 20% de pub. Oui. Et ça a été une logique, bon, qui était à double tranchant, on peut dire, hein, puisque
c'est une logique qui correspond à une demande surtout en province, à une demande locale, enfin province, pas que province, ça peut être parisien, mais enfin c'est vrai qu'à Paris on travaille un petit peu différemment, mais disons une demande locale, c'est-à-dire les commerçants locaux disent, mais nous, la grande publicité ne nous ramène rien. Nous, on a besoin d'un petit support local qui vienne toucher donc les gens qui habitent à proximité de notre commerce. Hein. Et donc, il a été admis qu'à ce moment-là, effectivement, on pouvait accepter que Radio Associative puisse faire un petit peu de publicité. Maximum 20% du budget, en sachant en plus qu'il y a une partie de la subvention qui est supprimée à ce moment-là. Bon. Mais c'est pas... Nous on a fait le choix à FPP de ne pas en faire du tout.
Ouais, pour... Justement, tu peux expliquer ce choix, puisqu'il peut paraître...
Ce choix, c'est d'être totalement indépendant par rapport à des annonceurs, par rapport à des marques. Maintenant, nous sommes dans la région parisienne et beaucoup de publicités, en fait, que l'on ferait, auraient une portée plus importante que, si vous voulez, un petit commerce d'artisanat, hein, qui se situerait dans un petit village de montagne, hein, peut lui ressentir le besoin d'avoir sa publicité sur la radio, et la radio peut ne pas se sentir menacée par quelqu'un qui aura financièrement un poids quand même qui n'est pas si important que ça. Voilà. À Paris, les sommes en jeu sont tout de suite beaucoup plus importantes. Forcément, on touche beaucoup plus de gens aussi. C'est en nombre d'auditeurs. C'est impressionnant.
Est-ce qu'il n'y a pas un piège aussi, à un moment, un risque de, bah justement, de vouloir passer à une radio commerciale, c'est-à-dire de dépasser les 20% de publicité, dans ce cas-là, de sortir du cadre, puis c'est tout à fait autorisé.
Non, que c'est le pas risque... tout à fait autorisé. On change de catégorie.
Oui, on change de catégorie.
Il faut refaire une demande au CSA. Il n'est pas dit que cette demande soit accordée.
Il y a combien de catégories on peut situer combien de catégories à peu près de radio associative, commerciale, non commerciale, enfin bon.
Alors, commercial, non commercial, en fait, actuellement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc, et alors, c'est des critères qui sont vraiment propres au CSA. Oui, il faut j'exclus hein, les Radio France de la catégorie qui est à part. Mais c'est des critères qui sont très particuliers, puisqu'il y a, bon, bah, est classé. Alors, c'est la nouvelle classification de la RNT, du numérique. Hein.
Enfin, je crois qu'elle correspond à l'ancienne.
Elle correspond
hein.
à peu près. Oui, ils ont repris l'ancienne, mais en fait, ils ont attribué vraiment sur. Donc, finalement, il y a les radios associatives, il y a des radios qui ont une portée nationale. Et qui ont un contenu national informatif, et des radios qui sont thématiques nationales, voilà, mais qui sont thématiques avec un petit contenu, et voilà, et c'est à peu près tout. Et en fait, finalement, dans la classification, il n'y a pratiquement plus de radios locales. On peut dire et là bon bah sur la majorité des radios hein, sont des radios thématiques à caractère national. Alors à caractère national, ça veut pas dire qu'elles sont diffusées sur tout le territoire, mais ça veut dire qu'elles ont la possibilité d'émettre sur plusieurs régions puisqu'elles elles émettent toujours en modulation de fréquence.
Oui.
Voilà donc sur
sans arroser tout le territoire.
Voilà,
c'est le cas je crois d'une radio qui était avant associative, qui a basculé, qui s'appelle Radio Beurre, où ils ont dans toutes les grandes villes, oui, donc il y a une population originaire d'émigrés, ils émettent à ce moment-là.
Ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement dans les années 80, il y a eu beaucoup de radios qui ont disparu, de radios associatives qui ont disparu. Là, on comptait sur Paris, il en reste à peu près une quinzaine, dont certaines se partagent la fréquence. À quoi est due cette évolution finalement, la disparition quoi, du...
Moi, je crois qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on est en train de vivre avec la radio numérique terrestre, puisque bon, il y avait des radios, on va dire politiques, qui étaient raccordées comme Radio Riposte, qui étaient raccordées à des partis politiques, hein, très clairement. Mais il y a aussi des radios qui ont disparu parce que financièrement, ça devenait de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, on est dans cette même bascule, puisque effectivement, on est sur un problème financier assez important. Et à l'époque, effectivement, par rapport aux radios libres, il y avait, si des radios ont disparu, c'est que financièrement ça devenait compliqué, et pas seulement à Paris mais aussi en province, parce que il y avait des radios qui étaient des radios de lutte sociale, puisque bon, en Lorraine notamment, Radio Lorraine Cœur d'Acier qui a disparu, qui était une radio qui relayait beaucoup les luttes sociales, mais ces radios aussi ont disparu parce que financièrement ça devenait compliqué, et que s'installer progressivement les radios commerciales avec leur réseau, que même des radios qui étaient associatives ont été avalées par ces grosses radios pour
alors on a beaucoup parlé en fait de cette possibilité qu'avaient les radios commerciales de racheter simplement la fréquence, ce qui a permis à un tas de radios associatives finalement de brader leur... Il y a eu un film là-dessus hein,
alors normalement
des directeurs de radios de carrément brader pour faire fortune puisque les intérêts
quand il y a eu le rachat comme ça par TSF, on a protesté officiellement. Parce que au départ, il était dit qu'une fréquence qui appartenait à une radio libre, si la radio était défaillante, pour un tas de raisons, hein, mais enfin, en général, c'est financière, hein, le problème, on devait redonner, puisqu'il y a une demande, il y a plus de demandes qu'il y a d'élus, hein, donc on devait redonner à ce moment-là cet espace à une autre radio libre. Et effectivement, bah, TSF, eux, ils avaient des problèmes importants de dette, dû à un financement qui était important avant, mais qui n'a pas pu se poursuivre. Et donc, ils se sont retrouvés, ils avaient beaucoup d'employés, de journalistes, employés, salariés, hein. Et donc, un endettement, ça va très vite, hein. Dès qu'on a plus le financement, à se retrouver en dette. Et il fallait payer donc ces dettes. Et c'est là, ils ont choisi cette solution-là que l'on regrette. Enfin, on regrette que le CSA ait accepté cette solution. Dans le sens où c'est une fréquence qui est partie, qui est basculée au commercial.
Voilà, qui est basculée au commercial. À la société. Voilà. Alors, on va passer sur FPP, puisqu'on va un peu expliquer qui on est. Alors, ça peut paraître curieux de présenter FPP, mais c'est vrai que FPP a été fait avec une certaine philosophie, notamment, celle évidemment de ne pas être commerciale, mais elle a une charte. Alors, est-ce que Joël, tu peux nous présenter peut-être FPP, toi qui as été un grand auditeur de FPP.
Oui, en gros, dans les termes, FPP, l'idée, c'est de donner déjà la parole à ceux qui ne l'ont pas. On le voit bien sur la grille de notre antenne. Beaucoup d'émissions de divers horizons, que ce soit social, que ce soit d'immigration aussi, notamment. On a sur cette antenne. C'est toujours cet exemple qui me vient, mais le samedi matin, il y a une émission de 2 heures en langue kurde, ce qui est tout à fait rare dans le paysage audiovisuel. D'autres émissions en malgache aussi. Donc là aussi, ça vient d'horizons différents et de milieux sociaux différents. Et donc, le slogan un peu d'FPP, c'est donner la parole c'est la voix des sans-voix, quoi. Et c'est vrai que effectivement, là, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi l'idée que ce n'est pas une radio de professionnels. Et ça, on y tient beaucoup. Quand je dis pas professionnel, dans le sens où, effectivement, les uns les autres ne viennent pas, là, pour la plupart du temps, de milieux radiophoniques. Beaucoup viennent de quartiers, travaillent dans l'industrie ou autre. Mais que ce soit les animateurs ou les animatrices, on vient de milieux très très différents et pas rattachés pour la plupart du temps à la radio.
Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules.
Oui, c'était la petite intermède, voilà. La virgule.
Merci pour la virgule. Donc voilà, je crois qu'il y avait, il y a aussi cela. Et important aussi, c'est le relais du mouvement social. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a pris l'antenne dans l'émission d'RESF, c'est aussi pouvoir à tout moment relayer ce qui se passe au niveau des grèves, au niveau des centres de rétention notamment, mais aussi au niveau musical, puisque on touche des formes de musique diverses et variées et urbaines, donc ça c'est très important, non commercial aussi, ça on y tient. Ça a permis à certains qui font aujourd'hui, je pense à Cazé notamment, qui a débuté sur cette antenne, de pouvoir effectivement commencer à se faire à la main, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, et c'est aussi...
Tu peux rappeler qui est Cazé?
Alors Cazé, c'est une rappeuse donc qui a commencé sur FPP, donc on n'était pas sur Paris, puisque à l'époque FPP était à la Plaine Saint-Denis en 1992, si je me souviens bien, c'est ça? Si je me suis pas compris.
Oui, c'est absolument. Oui.
En 1992. Donc c'est là-bas que ça a démarré. Alors bon, FPP a aussi une autre histoire, puisque c'était Radio Tomate aussi, donc il y a déjà pas mal, une grande histoire d'FPP. Et donc, ça permet aussi de pouvoir effectivement avoir un visionnage sur le monde social, musical et autres assez important. Et puis aussi, quelque chose qui est vraiment une liberté grande, c'est de pouvoir avoir des émissions de longue de longs moments, c'est-à-dire par exemple d'une heure ou une heure trente, par exemple. Ça, c'est très très important. Et la plupart des invités qui viennent lors de ces émissions ont tout le temps de développer une analyse ou d'expliquer une lutte. Et ça, c'est très très important. Pas rentrer en comparatif, mais quand on voit dans d'autres radios, on va dire professionnelles entre guillemets, les gens qui viennent, qui sont pressurés, qui ne peuvent pas poser une idée, qui ne peuvent pas développer une analyse, ne peuvent pas développer une lutte, en bout de 5 minutes on leur dit ben voilà, le temps est terminé et puis on doit passer à la page de pub. Ici nous avons cette liberté qui est vraiment très 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 importante, et ça je crois que c'est la pierre angulaire de beaucoup de choses. Et toutes les émissions qui sont sur cette antenne ont cette possibilité là qui est pas moi j'analyse ça vraiment très 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 importante.
C'est vrai, en plus on a bon il y a beaucoup d'aspects finalement dans FPP. Il y a à la fois l'aspect communautaire, puisqu'on s'adresse quand même aux communautés étrangères sur le sol français, donc je pense aux Comores ou à Madagascar, enfin au Malgache. Oui. Il y a quand même on est là pour les communautés. Puis il y a toutes les émissions qui sont au départ des relais du mouvement social associatif. Je pense à RESF, à AC, qu'on connaît, mais qui sont des émissions qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce qu'il y a un fort contenu social et politique, même s'il est effectivement engagé, mais engagé du côté des mouvements sociaux. Donc c'est ce qui est c'est l'expression du mouvement social.
Mais il y a aussi des émissions culturelles. C'était, ça fait partie de notre charte. On a, je crois, un tiers du temps qui doit être en émission culturelle, qui est divisé en culturel musical et culturel non musical.
Tout à fait.
Qui présente quand même aussi un intérêt. C'est-à-dire que même dans la culture, on peut avoir des musiques que l'on aime ou que des auditeurs apprécient et qui ne sont pas diffusées souvent. On peut avoir aussi des émissions littéraires avec des ouvrages dont on ne parle pas souvent non plus dans d'autres médias.
Il y a une tu parlais de la charte là, quelqu'un peut rappeler un peu de la charte de FPP tout de même?
Grosso modo, bien sûr.
On a tous en tête, puisque on fait nos émissions avec elle gravées. Il y a l'interdiction de tout propos finalement.
Ça c'est la charte. C'est ça. Enfin, ça fait partie normalement de tout ce qui est média. C'est-à-dire qu'effectivement, pas d'insultes, pas de délation, pas de.
Oui, mais pas de propos antiféministes, par exemple.
Alors ça, c'est spécifique voilà. À FPP. Pas de sexisme, pas de racisme,
pas de prosélytisme religieux.
Pas de prosélytisme religieux. Voilà.
Ouais, c'est important. On est quand même une radio marquée Leicard.
Plutôt électoraliste, on va dire.
Électoraliste, oui. Écoutez, je vous propose de marquer une courte pause et on reprendra cette fois sur le problème du passage au numérique, vaste et compliqué, et problème compliqué et angoissant.
Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules.
La radio numérique terrestre, vous en avez entendu parler ? C'est ce qui vise à remplacer la bande FM d'ici quelques années. Sauf que cette transition met en danger toutes les radios associatives non commerciales. Vous trouverez toutes les infos et une pétition à signer sur le site radiosenlutte.free.fr.
Il y en a marre de l'idéologie marchande.
Après la bande à Bader, après la bande à Bono, les États de l'Union Européenne veulent la disparition de la bande FM.
Bande FM.
Soutenez les radios libres en lutte contre le diktat du numérique. Plus d'infos et pétitions à signer sur radiosenlutte.free.fr.
Franchement, j'avais pas trop le moral. Et puis dehors, il faisait froid. Je me disais l'intersyndical, c'est pas mon truc, moi j'y vais pas. Mais le matin à la radio, j'ai entendu un gars habile qui parlait des conflits sociaux, et j'ai tout de suite aimé son style.
Franchement, on est dans une démocratie formidable. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de le dire que de descendre dans la rue un peu traditionnellement, comme on le fait depuis 30 ou 40 ans en France, avec les mêmes banderoles, avec des slogans d'ordre général.
T'as rien trouvé de plus innovant ?
fumiger en défilant.
Enfin, franchement.
Franchement, t'as pas une autre idée. Tu vas encore manifester. Je me demande en l'écoutant si le rêve généralisé s'obtient en additionnant les cauchemars particuliers.
Enfin, franchement, on devrait de temps en temps mettre en avant l'idée qu'un peu de solidarité nationale, un peu se resserrer les coudes, c'est pas plus mal.
En gros, le gars me dit comme ça, t'es pas chômeur, pourquoi tu boudes ?
Enfin, franchement,
si tu veux garder ton emploi, tu ferais mieux de serrer les coudes. Je me demande en l'écoutant si le rêve généralisé s'obtient en additionnant les cauchemars particuliers.
On a un filet de protecteur qu'on s'est créé, on doit en être fier, qui est un formidable airbag contre la crise. Enfin, franchement...
Airbag en option commerciale, parce qu'en série, ça faisait trop cher.
Enfin, franchement...
Tu as acheté une carte postale, et puis juillet, écrit derrière... Pour toi, la protection sociale est un airbag contre la crise. Il faut croire que le choc frontal t'a abîmé la matière grise. Pour toi, la protection sociale est un airbag contre la crise. Il faut croire que le choc frontal t'a abîmé la matière grise.
Quand ça va mal, c'est pas mal. Parce que plus c'est inquiétant, plus ça va mal, plus en réalité, on devient français. Ouais, franchement, quand ça va mal, c'est pas mal. Parce que plus c'est inquiétant, plus ça va mal, plus en réalité, on devient français. Quand ça va mal, c'est pas mal. Parce que plus ça...
Je me demande en défilant si le rêve généralisé s'obtient en additionnant les cauchemars particuliers.
Bonsoir, vous êtes toujours sur FPP. Ce soir, c'est une émission spéciale consacrée au passage au numérique terrestre, puisque le CSA a attribué des espaces, puisqu'on ne peut plus dire fréquence, il a décidé des radios qui seraient sur le numérique terrestre, et qu'en principe, il a maintenu la date du début de la diffusion à janvier. Alors Claude, bon, je me tourne vers toi.
Je voulais simplement rappeler la fréquence.
106.3 FM, et que vous pouvez effectivement appeler au 01 40 05 06 10. Ouais. Merci. Oui, Claude, en fait, je me tourne vers toi puisque tu es technicien son. En fait, tu connais parfaitement le signal, toutes les problèmes liés au son. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer simplement
la différence,
en
quoi ça consiste,
voilà, le numérique terrestre en radio, qu'est-ce que c'est ?
Par rapport à l'analogique et par rapport à l'analogique modulation de fréquence. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà une partie qui est numérique chez nous. Par exemple, vous prenez un simple CD. Hein, ben un CD, c'est déjà une partie qui est numérique. Il y a eu encodage au moment où on a fait le CD et décodage au moment où on le lit. Donc on reste en analogique pour l'auditeur, on reste en analogique. À l'heure actuelle, on a une liaison numérique qui est la liaison du studio simplement à l'antenne. Mais la diffusion, ce que vous recevez, ce que votre poste reçoit, est de l'analogique. C'est de la modulation de fréquence, c'est-à-dire que par rapport à une fréquence fixe, on a une exploration qui se fait sur la fréquence, par rapport à l'ancien système qui était la modulation d'amplitude et qui permettait d'avoir une qualité bien inférieure.
Voilà. Non, mais c'est compliqué.
La radio numérique, c'est quoi ? Eh ben, c'est le son qui est transformé numériquement, qui va être diffusé en hertzien, comme la modulation de fréquence, mais qui va être diffusé en hertzien sous la forme numérique. Et c'est votre poste de radio qui doit décoder la partie numérique pour la transformer en analogique, puisque à un moment donné, de toute façon, le haut-parleur, lui, il est analogique et votre oreille est analogique.
Bon, alors pour les profanes,
est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec la TNT ?
On peut faire tout à fait le rapprochement avec la TNT. C'est exactement le même principe.
Hein. Donc, alors pour le profane, finalement, ça ne correspond pas à Internet où vous n'avez que du numérique qui arrive dans vos tuyaux. Là, il y a un encodage numérique et ensuite un décodage pour une diffusion hertzienne et une traduction du signal hertzien qui n'est pas la même que la modulation.
Bah, c'est-à-dire que le décollage, lui, maintenant, il va se faire à l'intérieur du poste-récepteur.
Voilà, donc il faut un nouveau récepteur.
Il faut un nouveau récepteur, bien entendu.
qu'on appelle un tuneur numérique.
Qu'on appelle un tuneur numérique, parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser le terme tuneur pour les chaînes haute fidélité. Donc c'était un des maillons qui était le récepteur radio, en fait, qu'on appelle le tuneur. Il faut savoir aussi que la radio, d'après les statistiques nationales, etc., je ne sais pas si c'est celles qui correspondent exactement à FPP, 80% de l'auditoire d'une radio, c'est quand même l'automobile. Oui, en temps d'écoute, hein. Pas en nombre de gens. En temps d'écoute, c'est quand même 80% des gens écoutent la radio quand ils sont dans la voiture. Pour cause, on ne peut pas regarder la télé en voiture, ou alors ça devient dangereux quand même.
On y reviendra, justement, sur cette histoire de.
Peut-être bien.
Voilà. Mais, oui, alors.
Pour dire qu'à ce moment-là, les récepteurs sont des formes multiples. Ça va du petit puce à transistor que l'on emmène dans sa salle de bain, parce qu'on écoute les informations le matin dans sa salle de bain. Ça peut être un très gros poste général. Ça peut être donc un récepteur
radio,
qui est installé sur une chaîne de fidélité. Et ça peut être, y compris, des petits récepteurs peuvent être des baladeurs, c'est-à-dire tout petits appareils qui sont des fois incorporés même à l'intérieur des téléphones, qui restent en modulation de fréquence. C'est-à-dire que c'est de l'analogique, c'est le cordon de l'écouteur qui sert de câble d'antenne, enfin de réception, hein.
Donc en résumé, on a bien compris que finalement c'était un peu compliqué au niveau de la réception, parce que ça veut dire qu'il faut changer pratiquement tout le parc de radiophonique français.
Je crois que la moyenne par foyer, c'est 4 récepteurs.
C'est 4 à 6 radios,
par foyer.
C'est énorme, hein, je pense qu'il est pris en compte effectivement la radio dans la voiture. Ça va pas se faire tout seul. Alors moi j'aimerais quand même qu'on détaille quels sont les avantages qui sont avec lequel on vend un peu ce passage au numérique, du passage à la TNT, comme par exemple une meilleure qualité d'écoute.
RNT.
La RNT, pardon. Merci.
Mais c'est un lapsus. C'est un réseau.
Et par exemple, comme une meilleure qualité du son, une multiplication des fréquences, parce que c'est un peu ça, c'est le miracle technique, et puis surtout des données associées qui sont extraordinaires. Alors, les données associées, c'est un terme un peu barbare. Tu peux expliquer de quoi il s'agit?
Alors oui, les données associées, qu'on peut appeler aussi des metadata, ce sont des données qui ne sont en plus du message principal qui est la radio, hein, c'est-à-dire qui est du son en fait, hein, même s'il a été numérisé. C'est quelque chose qui existe en partie. À l'heure actuelle, si vous êtes dans une automobile qui est équipée du système RDS par exemple, le système RDS permet d'afficher sur quelle radio vous êtes. Plutôt que d'avoir avant l'imposte, on tournait un bouton et on mettait en face d'une aiguille un chiffre qui était la fréquence de la radio. Alors pour nous, par exemple, 106.3 à peu près. Et puis on recherchait ça comme ça. Maintenant, on a un afficheur qui dit directement vous êtes sur fréquence Paris pluriel.
Ce qui effectivement est plus pratique quand on conduit.
Parce que donc ça, c'est une donnée associée. C'est le minimum.
On peut aussi avoir imaginé d'autres des écrans, des données associées visuelles aussi, comme des pochettes de
ce qui a été envisagé pour la RNT. Alors justement, la RNT aura beaucoup plus de données associées, puisque la RNT aura un écran. Enfin, les postes, donc les radios, que ce soit des tuners, sous n'importe quelle forme, auront un écran pouvant passer de l'image. En fonction du standard choisi par les différents postes, l'image peut prendre une part très importante ou moins importante. Ça peut être simplement le logo de la radio. Bon, alors en plus d'avoir du nom, il y a le logo. Ça, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose, hein. Réellement,
Est-ce qu'on pourra diffuser de la pub via ces données associées?
Rien ne l'empêche.
Nous,
en tant que radio associative, on ne va pas y mettre de la pub, bien entendu.
Bien entendu, c'est même pas sûr qu'on ait le contrôle sur les données associées, hein, soit dit en passant. Parce que le multiplexeur, on rentrera dans le détail plus tard, mais le diffuseur, a la possibilité de mettre de la publicité pour financer sa diffusion. Alors, je sais pas,
normalement,
c'est tout un débat.
Normalement, le canal image, en fait, appartient à celui qui fait l'émission. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit problème technique qui fait que si on met pas du tout d'image, et ben en fait la fréquence va se bloquer, l'émission ne passera pas, le son ne passera pas s'il n'y a pas du tout d'image.
D'accord.
Parce que dans le multiplexage, on doit donner des informations d'image. Et les diffuseurs, en général, ont une solution de secours. C'est-à-dire que si l'image disparaît, il va y avoir une image de remplacement qui va être une image fixe, qui sera peut-être une image simplement formée par un fond coloré, mais il y aura techniquement une image, parce que là, effectivement, dans la norme, s'il n'y a pas d'image, on bloque le système.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la qualité du son, puisque...
Alors, la qualité du son, c'est le principal argument donné par... vous allez avoir la radio numérique, donc sans parasites... et de meilleure qualité. La meilleure qualité, elle est vraie sur un certain domaine et pas vraie sur un autre domaine. Elle est vraie sur le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire le bruit de fond. Voilà, on aura un bruit de fond qui sera bien meilleur. Et donc ça permettra d'avoir de la musique avec une meilleure dynamique, normalement. Bon. On est obligé de travailler en ce qu'on appelle réduction de débit. C'est-à-dire que par rapport à un disque CD, qui prend beaucoup d'octets, beaucoup de place, on est obligé de réduire ce débit pour que ça passe, sinon on prend trop de place. Et de la même manière qui existe déjà, avec un petit peu de choses différentes, mais comme le MP3. Le MP3 est un système où on a réduit le débit. Alors le principe de réduction de débit, c'est dans l'audio, on a numérisé pour avoir une très grande qualité. Mais il y a des sons que l'on ne perçoit pas et qui prennent de la place. Surtout si, par exemple, il y a des sons forts, les sons faibles qui sont à côté ne seront pas perçus. Donc on part de ce principe-là. Il y a des algorithmes très compliqués qui analysent le son et qui déterminent qu'est-ce qui est utile à l'oreille et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Donc, en résumé, on aura peut-être une meilleure qualité, mais il y a un certain nombre de choses qu'on n'entendra pas. Est-ce qu'on aura réellement une meilleure qualité, puisque c'est-à-dire que dans le cas où le signal ne passera pas, on n'entendra rien du tout.
On ne peut pas avoir une meilleure qualité par rapport à l'écoute d'un CD. On va prendre le CD comme référence, même si...
Ce serait mieux de prendre la modulation de fréquence comme référence par rapport à la modulation de fréquence. Parce que c'est ça, finalement,
Alors, la modulation de fréquence... moi, je préfère partir du CD. Je veux dire pourquoi. La modulation de fréquence, à l'heure actuelle, on a de plus en plus resserré les canaux et on a diminué la qualité de la modulation de fréquence. La modulation de fréquence est déjà limitée à 15 kHz. On ne peut pas dépasser 15 kHz sur une antenne. Parce que sinon, on prend trop de largeur et qu'on va baver sur les autres. Donc là, il y a des filtres très draconiens. On coupe à 15 kHz. On est limité en bruit de fond, enfin rapport signal sur bruit, parce que surtout dans la région parisienne où les émetteurs sont espacés de 0,3 MHz, ce qui est très proche, si on a un son qui est très faible, il y a des chances pour qu'on perçoive un petit peu du poste d'à côté. Il y a une radio appartenant au groupe Radio France, donc eux ils ont un peu plus privilégié, qui, pour se protéger sur la région parisienne, il leur a été attribué deux fréquences côte à côte. C'est le cas de France Musique. France Musique à Paris, ils ont deux fréquences côte à côte, espacées de 0,3. Ce qui fait que si jamais on est un petit peu perturbé, on peut basculer sur l'autre. Et puis, c'est une manière de se protéger, un peu plus d'espace.
Voilà. Alors, tout ça avec le numérique terrestre, oui, la RNT.
Alors.
Ça va disparaître, cette espèce.
Il y a une partie qui va s'améliorer. Donc, on est en réduction de débit, c'est-à-dire par rapport au CD, parce que c'est quand même la source sonore que maintenant les gens connaissent bien, et qui est rentrée dans les mœurs depuis, ça va faire 20 ans, 25 ans même maintenant qu'il y a le CD. On va avoir pratiquement le même rapport signal sur bruit. On va avoir. Par contre, en fréquence également, on va monter très haut, de l'ordre de 18 kHz, sans problème. Par contre, il y aura, comme le MP3, des petites micro-informations qui vont disparaître. Ça s'entend sur des faibles niveaux et ça s'entend sur ce qu'on appelle les queues de réverb. C'est-à-dire que vous avez un local réverbérant. vous avez donc un son qui va décroître tout doucement et qui a une certaine couleur. Eh bien, la réduction de débit va avoir tendance à bouffer ce genre de choses. La réverbération va chuter plus brutalement et en plus la couleur ne sera plus tout à fait la même. Donc, sur le plan qualité, voilà, il y a des choses en plus, il y a des choses en moins.
D'accord, c'est pas le meilleur.
Ça, c'est sur le plan théorique du fait d'avoir un système qui a une réduction de débit. Par contre, et puis l'avantage, par contre, d'être en numérique, donc de regagner une dynamique importante et de regagner une plage, une bande passante régulière et large. Voilà. Sur le plan de la réception, par contre, là, ça va se rapprocher beaucoup de la TNT. C'est-à-dire qu'il y a, pour l'instant, modulation de fréquence. On reçoit bien, c'est fonction de l'état journée, c'est des fonctions de l'antenne, si on a une très bonne antenne, ou si c'est simplement une petite antenne incorporée à son récepteur. Et puis, c'est fonction de l'endroit où on est, de l'immeuble d'à côté, de la grue, du chantier qui vient nous parasiter. Et à ce moment-là, on a une radio. On a une radio qu'on reçoit plus ou moins bien, qu'on reçoit plus ou moins avec des parasites. Il y a, par exemple, un orage dans le coin, on l'entend craquer. Hein. En numérique, on n'aura pas de parasites. On recevra, et à ce moment-là, le son sera très clair, sans parasites. Ou, d'un seul coup, il y a un trou. Et ben, dans le trou, c'est du blanc. C'est le silence, d'un seul coup. Et ça, c'est un phénomène qu'on a déjà avec la TNT. C'est-à-dire que la TNT, on a normalement une meilleure image. Moi, je suis dans un quartier qui est parasité par un monument très important. Et j'avais toujours en analogique un écho, ce qu'on appelle un écho d'image. Bon. Je ne l'ai plus en TNT. Par contre, de temps en temps, il y a figage de l'image, pixelisation... Et puis, il faut attendre 2-3 secondes pour que l'image se restabilise.
C'est presque propre numérique, ça, finalement, ce problème
C'est propre numérique, c'est-à-dire que si le signal, en fait, il est reçu par le poste, il est de très mauvaise qualité. Mais tant qu'il sait lire les 1 et les 0, il peut décoder et le message est bon. Et puis, à partir du moment où là, il a une vraie difficulté pour lire les 1 et les 0, hein, et ben, il ne sait plus ce qu'il doit mettre. Il ne sait plus du tout. D'accord. Donc, c'est le trou.
Donc, voilà. Donc, quand ça passera pas, ça passera pas du tout. Et sinon, on a une certaine, bon, une légère amélioration qui n'est pas extraordinaire non plus. Hein.
C'est un peu différent.
Il y a un autre argument pour la TNT, c'est finalement la multiplication des chaînes. Alors, c'est vraiment avec ça qu'on a vendu la RNT, pardon.
Et donc, il semble y avoir des pièges, justement.
Voilà, alors justement, alors le CSA a finalement attribué hein, les canaux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et sur la région parisienne, on a seulement 7 chaînes de radio supplémentaires, dont TF1 en radio, messieurs.
LCI.
LCI. C'est pareil. Et puis l'équipe, RTL l'équipe. Voilà. Et donc effectivement, des radios qui sont des clones des chaînes
de télévision. C'est les gens qui ont soumis leur candidature au moment où il y a eu l'appel. Hein.
Bien sûr, oui. Mais du coup, bon, multiplication de chaînes radiophoniques, pas tant que ça. On était à 50 avec les 7 en plus, ça porte.
Alors,
on est à 55 radios et on était à 49.
Ouais, alors, pas tant que ça, parce que là, il y a eu un petit problème de format aussi. Pratiquement tous les pays d'Europe ont choisi un format qui s'appelle le DAB+. Et le DAB+, permet également d'envoyer de l'image. Hein. Ça reste le même principe, c'est très cousin, hein, tous ces standards-là. Mais prend une place d'encapsulage moins importante et donc permettait de gagner en nombre de postes d'une manière bien plus importante que ce que nous on va avoir. Nous on a un petit gain, c'est pas zéro, ce n'est pas inférieur, on a quand même un petit gain, mais il n'est pas tant que ça parce qu'on a choisi un standard. Quand je dis on a choisi, c'est-à-dire le CSA, toutes les instances politiques aussi qui sont décisionnaires de ça. Ils ont choisi donc un système qui permettait une image un petit peu meilleure. Et donc qui prend plus de place. Et puis comme en plus l'image prend plus de place, on a un encapsulage, c'est-à-dire un système, une fois le faisceau formé hein, et multiplexé, on a un système qui lui prend quand même plus de place que les standards concurrents qui ont été adoptés entre autres par l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, voilà. Donc, ben voilà, c'est-à-dire que sur, il y avait 48 postes, je crois, en région parisienne, on va passer à 7 de plus.
55, à peu près.
55, voilà. Ça fait globalement 15% de plus, quoi.
Oui, je sais pas.
Il y a voilà. quand même une contrainte très importante. On va sortir un petit peu de la région parisienne pour les radios en province, puisque avec la RNT, adieu l'autodiffusion. Parce que effectivement, à Paris, on peut s'autodiffuser, mais ça coûte extrêmement cher et c'est un peu compliqué. Tandis qu'en province, la plupart des radios s'autodiffusent. Juste rappeler un chiffre pour nous ici, la diffusion, c'est 30 000 euros par an de diffusion. En province, la plupart des radios en province s'autodiffusent. Donc ça veut dire qu'avec aussi la radio numérique terrestre, adieu l'autodiffusion est obligatoirement obligé de passer par un multiplexeur.
Tout à fait. Alors ça, on va expliquer aussi un petit peu pourquoi. En modulation de fréquence, chaque poste est indépendant. Soit il s'adresse à un professionnel qui sait bien faire de la diffusion, soit il le fait lui-même. À Paris, faire la diffusion soi-même, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut prendre un site de grande hauteur, parce que nous avons un paysage qui est très encombré d'immeubles, avec certaines rues qui sont étroites. Si on veut absolument diffuser, malgré le peu de puissance qui est accordée aux radios libres, il faut être très bien placé au point de vue site. Les sites coûtent très cher, déjà, à Paris. En plus, il y a des conditions de contrôle, parce que il y a une grande proximité. Plus la ville est grosse, et plus il y a une demande pour utiliser cet espace, donc de nombre de programmes, tout simplement. Et plus il y a de programmes, et plus on doit faire attention d'être pile sur sa fréquence et pas ailleurs. Parce que sinon, on va embêter le voisin qui va pas traîner, d'ailleurs, à protester et à dire « mes auditeurs ne m'entendent pas parce qu'on entend le poste d'à côté ». Donc la diffusion à Paris est techniquement plus difficile et beaucoup de postes, enfin de stations comme la nôtre libre, on a choisi de se faire diffuser par un professionnel qui est là dans son affaire. Il n'empêche qu'on est quand même responsable de la diffusion. J'ai assisté il n'y a pas longtemps au contrôle justement du CSA de notre antenne. J'étais présent pour représenter la radio, c'est-à-dire que nous, s'il y avait un problème qui n'allait pas, on pourrait se retourner sur notre diffuseur en disant là, qu'est-ce qui va pas là, faut régler ce problème là, parce que là on pourra pas continuer à diffuser comme ça. Mais sur le plan administratif, la fréquence a été accordée à Fréquence Paris Pluriel, c'est à eux de s'arranger après avec avoir une émission propre. En province, l'espace est beaucoup moins rempli. Comme l'espace est beaucoup moins rempli, les tolérances sont plus larges. Et ça devient plus facile, à ce moment-là, à respecter les normes, c'est-à-dire à ne pas embêter le voisin, et donc à se diffuser soi-même. Et ça, c'est très important sur le prix de revient, bien sûr, de diffusion.
D'accord. Alors, on va passer... Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe en RNT ?
Voilà.
La RNT, on va former un faisceau. Un multiplex, c'est-à-dire que pour émettre, on ne va pas émettre chaque poste individuellement. On va émettre un ensemble d'une moyenne de 9 postes sur une seule fréquence. C'est-à-dire que ces programmes radiophoniques sont mélangés. Mais comme c'est numérique, on s'est retrouvé le petit. Chaque bit a son identité. C'est le vin.
C'était le jeu de mots de l'émission.
Voilà.
Merci Claude. Oui, non, mais on a compris l'idée, c'est qu'effectivement, on a un signal.
Mais on va émettre un signal radio qui comprendra 9 stations moyennes, parce qu'il peut y avoir des radios qui veulent plus de qualité, donc à ce moment-là, ils vont prendre plus de place et ça permettrait d'en mettre moins. Bon. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'accorder avec des confrères, on va les appeler comme ça, d'autres programmes radiophoniques, en disant, nous, on veut passer à la RNT, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour former le même encapsulage, le même faisceau, le même multiplexage, Et puis après, il faut diffuser. La diffusion est également beaucoup plus complexe en numérique. Un exemple, alors que sur Paris, c'est déjà compliqué, en modulation de fréquence,
on arrose une bonne surface, hein, puisque un petit peu la banlieue. Alors après, ça dépend si on est sur la route, ça dépend des immeubles, ça dépend des coins. Mais on arrose une surface qui couvre un petit peu la région parisienne avec une antenne et un émetteur. Situé en hauteur, mais une antenne, un émetteur. TDF, qui a sûrement les sites les mieux choisis, hein, les plus hauts, les plus... Hein. Pour faire la même chose, il leur faut 3 émetteurs. Un autre concurrent, qui a des sites un petit peu moins bien, il est obligé d'en mettre 4. Toujours pour la même surface théorique, hein, puisque le numérique fait qu'il y a des zones où on recevra mieux, il y a des zones où on recevra moins bien, ça dépend, là c'est... Et pour l'instant, les cartes qu'on nous a présentées, d'ailleurs, sur les cartes théoriques, c'est-à-dire qu'il n'y a que quand on émettra réellement qu'on s'apercevra des difficultés qu'il peut y avoir dans certaines zones ou pas. Hein. Donc, c'est plus difficile.
Donc, il faut plus d'émetteurs pour émettre en...
Il faut plus d'émetteurs.
Donc, ça, ce qui peut alourdir le coût.
Ce qui peut alourdir le coût. Par contre, les émetteurs sont moins puissants. Il n'y a pas besoin du tout de transporter la même puissance. Ça, c'est quand même un gain. Aussi pour les gens qui se soucient des puissances d'émission, les puissances d'émission sont inférieures en numérique. À l'heure actuelle, sur Paris, il n'y a que 3 prestataires qui sont homologués. Il n'y a que 3 diffuseurs qui... Ça a commencé par TDF, bien entendu, hein, qui a été homologué. Et puis après, il y en a 2 autres qui viennent de passer les homologations. Et le CSA a dit, voilà, vous avez le choix entre un tel, un tel, un tel. 3 diffuseurs. Il y a des chances pour que ce soit les 3 mêmes qu'on retrouve dans les autres villes en France.
Oui, il faut préciser qu'il y a beaucoup de petits diffuseurs qui se sont retirés finalement du projet parce qu'ils ont conclu que ça leur coûterait trop cher.
C'est pas tenable pour eux. C'est pas tenable pour eux.
Donc ça a favorisé les plus costauds, quoi, les plus solides, les plus gros. Dont l'ancienne TDF, qui était anciennement publique.
Alors, nous, on était habitués... Bon, nous, on avait un petit diffuseur. Ce petit diffuseur, on lui a demandé s'il était d'accord, hein, pour rentrer dans cette course, si ça l'intéressait. Pour l'instant, non, il a fait le bilan. Il n'a pas dit non d'une manière ferme, mais en tout cas, il n'est pas aligné, il n'est pas homologué.
Alors, peut-être qu'il faut expliquer...
Mais pour la province, c'est bien pire. Nous, on était déjà donc diffusé par quelqu'un. On avait déjà donc un prestataire. Hein. En province, toutes les stations qui s'auto-diffusaient, hein, ne le pourront plus. Parce que déjà, il y a le multiplexeur à former. Hein. Donc, regrouper une moyenne de 9 stations qui sont d'accord pour avoir le même truc. Et puis après... Bah, dans cet accord, ces 9 stations doivent avoir le même diffuseur. Parce que le faisceau, vous avez bien compris qu'il y a 9 programmes radiophoniques numériques qui sont balancés sur un seul faisceau hertzien.
Mais ça doit être plus compliqué parce que ça doit coûter beaucoup plus cher pour un diffuseur de diffuser sur des radios qui sont espacées, beaucoup plus espacées géographiquement. Je ne sais pas si tu saisis le sens de ma question. À Paris, la population est quand même très ramassée.
Le transport du studio à l'antenne, en fait.
Oui, c'est ça, et de l'antenne qui couvre tout le territoire. Je ne sais pas, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales ou dans les Alpes.
Oui et non, parce que il y a des techniques. Nous, on était encore ce qu'on appelle en LS, c'est-à-dire une ligne de téléphone spécialisée. Elle est passée en numérique à la suite du déménagement de notre antenne. D'ailleurs, on n'a pas eu le choix. Hein, on nous l'a imposé. Maintenant, il y a aussi des versions, disons, informatiques, style ADSL, mais ADSL encore plus rapide. Internet, si vous voulez. Hein. Un Internet petit peu plus rapide et un petit peu plus fiable. Hein,
Oui, mais au niveau de la diffusion hertzien,
qui permet
de l'émetteur vers le poste de radio, c'est quand même ça doit représenter un certain coût, non?
Ça représente un certain coût, mais alors apparemment le coût ne sera, à part le matériel qui est tout nouveau, hein, donc qu'il faut amortir, comme tout ce qui est matériel numérique, informatique, enfin on sait que les temps d'amortissement, c'est pas 10 ans ou 5 ans, c'est 3 ans en général. Hein.
D'accord.
Donc il y a ça à amortir. Mais au total, je ne pense pas que ça coûte plus cher que la modulation de fréquence.
Alors le problème pour eux, ça,
ça fait renouveler du matériel.
Alors le problème pour les radios en province, à part la fin de l'autodiffusion, à part le fait de ne plus pouvoir s'autodiffuser, ça va être quoi? Simplement de se trouver, de se mettre d'accord entre elles, ou de trouver
de se mettre d'accord entre elles.
Oui. Bah, juste une petite parenthèse, par exemple, une radio qui est toute seule au fin fond de la montagne ou à la campagne, si elle ne trouve pas d'autres partenaires pour se regrouper, elle disparaît.
Elle va disparaître, bien entendu. Bien entendu, parce qu'il y a des petites radios en province où, effectivement, ils ont une zone géographique qui n'est pas réellement représentée par... enfin, même si c'est représenté par quelques radios, ça fera pas neuf. Ou alors, ils se payent un faisceau à eux tout seuls.
Oui,
mais à ce moment-là, le prix, il est encore bien plus élevé.
Oui, mais alors, c'est bien ce que je disais. Finalement, il y aura un problème de couverture du territoire. De couverture par la, qui sera de moins bonne qualité que ce qu'il est actuellement.
Oui, ça, on peut l'envisager.
Il y a aussi pour moi, à travers ça, une logique de consommation et une forme de discrimination aussi. Dans le sens où, logique de consommation, on la voit bien. Je veux dire, les postes dans un premier temps, vont être, par rapport à un transistor, vont être quand même un peu plus chers. Moi, je pense évidemment aux gens qui sont en prison, par exemple, qui ne pourront pas avoir accès à ces postes. Les gens qui habitent dans les quartiers, qui sont dans les quartiers populaires, qui ont besoin de des radios comme nous, parce que effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est aussi un relais au niveau du mouvement social. Il y aura une forme de discrimination parce qu'elles seront mises hors d'écoute de ces radios numériques. Et aussi pour nous en tant que diffuseurs, ça nous met dans un embarras, dans le sens où pour l'instant il n'y a pas les financements qui sont à côté pour pouvoir diffuser. Et dans un premier temps c'est une double diffusion qui devrait être faite, puisqu'il y a une diffusion en FM et en numérique. Et pour l'instant, nous, en tant que radio associative, nous ne pouvons pas financièrement assurer. Et même si je pense que nous pourrions assurer, il nous est important de garder la bande FM. On en reparlera peut-être un peu après, parce que derrière ça, derrière cette logique de la bande FM, il y a aussi des gens qui aimeraient bien récupérer, je pense au niveau de la téléphonie, récupérer aussi les fréquences.
Oui, c'est tout le problème de cette période transitoire, mais cette période transitoire qui peut durer plusieurs années, enfin, forcément. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, si on dit demain, ça y est, on émet en numérique, on n'a pas un seul auditeur.
Non, puisque
les postes, il n'y a pas de récepteur encore. Les récepteurs devraient être en vente à partir de, disons, novembre-décembre.
Et en même temps, on ne peut pas encourager les gens à changer de poste de radio s'il n'y a pas d'émetteur.
Absolument, c'est-à-dire que s'ils achètent un récepteur, alors les récepteurs au début, ils recevront aussi la modulation de fréquence, si j'ai bien compris. Moi, j'ai vu un petit appareil, il semblait que c'était un appareil prototype et il semblait qu'il n'avait pas modulation de fréquence. Mais normalement,
que les postes ne sont même pas prêts, ils sont à l'essai, voilà, en prototype.
Ils sont disons en pré-série, voilà. C'est...
Ouais. Donc, ce qui oblige finalement le diffuseur à avoir une double diffusion. Joël l'a dit, je crois, c'est 30 000 euros, par exemple, sur Paris, la diffusion.
Globalement, enfin, c'est une enveloppe,
une enveloppe globale. Et c'est le même prix.
Globalement aussi.
Pour le passage.
Globalement, avec en général un petit peu plus de frais, parce qu'il y a quand même des choses.
Sachant qu'en fait la fin de la modulation de fréquence en Europe a été déclarée, je crois, pour 2012 ou 2015, et en France il n'y a pas de date, et ça peut se traîner dans le temps.
Alors 2012, c'est sûr, c'est l'arrêt de toute la télévision analogique.
D'accord.
Il y a des gens qui souhaitent que la radio s'arrête également en 2012. Beaucoup de professionnels disent que c'est pas possible.
Ça rentre pas dans le fameux projet numérique, du tout numérique, quelque part. Je pense qu'il y a un peu ça derrière.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Le prétexte, le prétexte, c'est l'espace hertzien est saturé. Or, il y a des gens qui sont demandeurs d'un espace plus important. On nous donne comme excuse, par exemple, que les aéroports sont demandeurs d'avoir un espace aérien plus important et qu'ils n'ont pas. À mon avis, c'est quand même que très local. Hein. Ça tourne qu'aux alentours de l'aéroport.
Oui, c'est pas très comme argument. Ça tient pas dans la route quand même.
Il y a surtout un autre demandeur qui, lui, est bien plus important, c'est la téléphonie. Parce que la téléphonie portable veut passer de l'image. Hein, voir la fin de son match sur son téléphone portable alors qu'on est en déplacement, c'est vraiment très important. Non, on n'a pas le droit de rire.
Hein. Oui, bien sûr. Il y a plus important. Hein.
Et eux sont très, très demandeurs. En plus, si on a choisi, apparemment, hein, si on a choisi le TDMB, c'est-à-dire celui qui prenait un peu plus de
place
dans l'image.
Je veux dire ce que c'est le TDMB. C'est Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting. C'est ça que ça veut dire.
TDMB. C'est bien ça.
Voilà. On traduit.
Oui, alors il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Oui, tu étais sur la téléphonie mobile.
Oui. Mais... Donc si on a pris le système avec la meilleure image, c'est aussi parce qu'il y a quand même effectivement une demande due aux gens qui vivent avec la publicité, de manière à ce que si par exemple on passe un disque, hein, ben pour que les gens puissent acheter ce média-là et pas celui d'à côté, il faut bien représenter la pochette du disque dans son détail. Vous voyez, donc il faut une résolution d'image qui soit un petit peu supérieure. Enfin,
il me semble que la norme qui a été retenue en France est une norme qui n'a pas été du tout retenue en Europe. Qui
alors, est beaucoup pas plus du légère. Tout en Europe. On est les seuls en Europe. Il y a un petit gag quand même, oui. Parce que on a adopté un système coréen. Pourquoi pas? C'est-à-dire que, vous voyez, la télévision entre le PAL et le SECAM, là, il y avait une petite justificatif, c'est-à-dire qu'il y avait le système français contre le système européen. Bon. Là, il n'y a pas de système français, hein, dans ce domaine-là. Donc, on a choisi un système coréen.
Pour la télévision.
Mais on a choisi le système coréen de la télévision. Et le gag, c'est que la Corée a choisi le DAB+, c'est-à-dire comme les Allemands, les Anglais, les Luxembourgeois, etc., pour leur radio. Voilà.
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on a choisi un système qui n'était pas fiable à la base.
C'est pas une question de fiabilité. C'est une question que pour faire de la radio, c'est un système qui prend beaucoup de place. Et donc, qui ne permet pas de gagner autant. On a gagné 7 postes sur Paris. Enfin, 7, programmes supplémentaires. C'est tout.
On a quand même l'impression que ces données, associées, là, ont une grande importance parce qu'on a choisi la norme numérique, pour donner plus d'espace visuel, donc pour leur donner plus d'importance. Et dans une consultation publique qu'a fait récemment le CSA, donc sur son site, alors c'est une enquête publique, les 32 pages, les trois quarts des 32 pages sont consacrées aux données associées et à la définition légale.
L'enquête publique que vous pouvez voir sur le site du CSA à l'heure actuelle ne concerne que les données associées.
Donc comme quoi, hein, c'est...
Et alors, faut savoir qu'une enquête publique, ce n'est pas une enquête s'adressant au public, c'est-à-dire au grand public, c'est-à-dire à l'auditeur. C'est une enquête qui permet de dire tous les participants, tous les acteurs du système qui ont quelque chose à dire, c'est le moment de vous exprimer, parce qu'après, le système sera totalement figé et vous n'aurez plus le droit de vous exprimer.
Hein. D'ailleurs,
cette enquête ne repose pas, ne remet pas en rien en cause la RNT. Hein. C'est simplement sur différents dispositifs des données associées. Voilà.
Absolument. D'ailleurs, curieusement, puisqu'on parlait, du public, tu faisais allusion au public, actuellement, ce qui est quand même assez curieux, en tant que radio associative, on nous a demandé au mois d'octobre dernier de déposer un dossier au CSA, et d'un autre côté, les auditeurs, le public n'est quasiment pas informé. Moi, j'ai vu autour de moi, on me posait la question comme ça, sais-tu bientôt que... Il va y avoir peut-être un passage au numérique. Les gens ne sont pas au courant. La population n'est pas au courant. Et c'est quand même assez curieux comment ceci est présenté, que les gens seront informés seulement au dernier moment et que même le service public qui devrait faire son boulot, mais bon, comme dans beaucoup d'autres choses, ne le fait pas, n'informe pas, même pas ses auditeurs.
Oui. Alors là, je comprends les services publics qui ont du mal à faire aussi la publicité de ce système, dans le sens où il y a 10 ans, il y a déjà eu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y a eu, on a appelé le DAB, Digital Audio Broadcast. Broadcast étant la diffusion radio, hein. Audio, on sait ce que c'est le son, hein. Et digital, radio numérique. Bon. Alors là, il y a eu des petits soucis techniques. Mais il faut savoir quand même que pendant plus de 5 ans, les chaînes de Radio France, plus enfin les chaînes principales de Radio France en radio, hein, plus les grands diffuseurs, on va dire RTL, Europe, enfin voilà, tous les grands postes commerciaux qui étaient avant des postes périphériques, ont diffusé en DAB. Et il n'y avait pas de récepteur, très très peu, livré au compte-goutte à des gens qui vraiment le voulaient absolument. Et ces gens, je peux vous dire qu'ils n'ont jamais amorti leur poste, parce qu'il y avait aussi des problèmes techniques qui venaient se poser là-dessus.
Mais c'est fou, hein, quand même.
Ce qui a donc provoqué d'ailleurs les modifications de normes, donc le DAB+, qui est vraiment une modification du DAB, et puis le TDMB, qui est son petit cousin, etc.
Donc c'est les constructeurs qui ont fait capoter finalement le projet.
Ceux qui ont fait, c'est pas les problèmes techniques qui ont fait capoter le projet, parce que les gens n'ont pas pu se rendre compte qu'il y avait des problèmes techniques. Et puis les problèmes techniques auraient pu être résolus bien plus rapidement s'il y avait eu des auditeurs. Il se trouve que les commerciaux, le marketing, hein, sont aperçus qu'ils lançaient en même temps plein de produits nouveaux. Et normalement, le public n'était pas prêt à recevoir à la fois autant de nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y avait un grand plan de lancement de la télévision haute définition, lié en plus avec les écrans plats non cathodiques. Hein.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une course quand même à l'évolution, enfin aux produits justement, à l'évolution technologique, au renouvellement du parc, au renouvellement du radio, qui fait qu'on a l'impression, enfin on prend quand même les auditeurs pour des consommateurs quelque part.
Oui, bien sûr, oui, il y a ça aussi.
C'est-à-dire changer son poste de télé tous les...
Si on change de standard, et que ça oblige à changer un poste qui pourrait très bien encore fonctionner, absolument, oui.
Alors, est-ce que, par exemple, le numérique, donc le RNT, ne pourrait pas capoter du fait de la concurrence de ce qu'on appelle les radios logicielles, c'est-à-dire, en fait, de... Alors, la radio logicielle...
Disons la radio Internet, quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc, bon, il y a... Parce qu'il y a deux... En fait, il y a deux... Là, il y a deux concurrents, il y a deux technologies concurrentes.
Oui, la seule chose qui est commune, c'est le fait d'avoir un son qui est en analogie, qui est transformé en numérique et avec une réduction de débit, aussi bien pour l'un que pour l'autre.
Et qui sera différent.
Le transport, lui, il est différent, puisque l'Internet, il passe par du câble. Ouais. C'est des lignes téléphoniques, enfin, ce n'est pas de l'ersien. Hein. Alors,
mais par exemple,
à l'heure actuelle, il y a quand même plus de la moitié des gens qui ne sont pas équipés d'Internet. On peut dire ça. En plus, l'Internet mobile n'est pas...
Moi, je pense à l'Internet mobile, hein, dans la radio, par exemple, dans ta voiture... Parce qu'à terme, on peut aussi diffuser, même si c'est du numérique, en hertzien pour capter une radio ou par le Wi-Fi, par exemple. C'est une évolution technologique possible.
Mais le Wi-Fi, pour l'instant, les portées ne sont pas du tout les mêmes quand même.
C'est sûr, oui.
Mais à la longue, il pourrait y avoir, de toute façon, effectivement, il va y avoir une bagarre, il y a peut-être un standard qui va disparaître. Comme il y a eu différents standards, par exemple, dans des supports de vidéo ou audio, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait eu une tentative de faire le DVD audio, il a totalement disparu, il y a eu le SACD, il n'est pas encore totalement disparu, mais quasiment mort. Il y a des vraies bagarres aussi entre les sociétés sur des plans techniques, oui. Oui, oui, et la radio ne va pas y échapper.
Par exemple, les embrouilles qu'il y a eu entre Sony et d'autres producteurs sur le Blu-ray, le DVD et compagnie, voilà, c'était une version merci de format qui n'est toujours pas résolue d'ailleurs. Hein.
Et on demande en plus au public de faire l'arbitrage de ça, et je pense que le public, il n'est pas prêt d'arbitrer ce genre de choses. Lui, il veut un truc qui marche bien. Si ça apporte un progrès, tant mieux. Si ça coûte pas cher, que ça apporte un progrès, tant mieux. Si ça apporte un progrès qui est pas évident, et que le problème, c'est simplement parce que de toute façon l'ancien n'existe plus. Le public, heureusement, il a cette sagesse de pas se précipiter dessus. Hein.
En préparant cette émission aussi, on a vu en faisant des recherches qu'il y avait un peu un conflit d'intérêts. Puisque tu vas nous en parler un petit peu, Ludo, de cela.
Alors oui, mais en fait, on s'est aperçu que finalement, le Pierre Kosciusko-Morizet, donc le frère de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est donc la secrétaire d'État à l'économie numérique, Pierre Kosciusko-Morizet était président de l'Association de l'économie numérique. Et qui regroupe en fait toutes les sociétés qui s'occupent du passage au numérique, voilà, des sociétés privées. Alors, et qui sont un institut de veille et d'entrepreneurs. Et donc évidemment, on ne peut pas ne pas se poser la question hein, de, eh bien, du, disons, du lobbying actif de ces sociétés auprès de la secrétaire d'État à l'économie numérique, sachant que les enjeux sont, enfin, ne paraissent pas si importants que ça, mais en ce qui concerne la téléphonie mobile, ils sont quand même très importants. Et même en ce qui concerne les données associées et la publicité sur la RNT risque d'être important. Et je parle même pas du fait que certaines radios puissent être disparaître et dont les canaux puissent être remplacés. Alors, on va aborder bientôt ce sujet, mais t'as un commentaire là-dessus, toi,
Je dirais que, c'est une famille qui est passionnée par le numérique. Donc, on retrouve le frère, la sœur, c'est normal.
Ancien fils d'ancien.
Je suis pas là pour les défendre, hein.
Fils d'anciens sénateurs.
On peut s'imaginer que, de toute façon, ils doivent parler entre eux, forcément. S'ils appartiennent à la même famille, on peut pas leur interdire de parler entre eux.
Voilà. Et quant au président.
J'ai beau essayer de les défendre, je sais pas, ça prend pas, là. Pourquoi?
C'était juste une remarque. Donc, quant au président du CSA, lui, il a mené en partie la privatisation de TF1 et il était conseiller de.
Il était président de Radio France. Il a été président, Monsieur Boyon, donc, qui est le président du CSA, a été président de Radio France, notamment.
Et il a mené le passage à la TNT, comme conseiller à la. Enfin, donc, c'est des gens qui sont quand même très impliqués là-dedans et très convaincus.
Bien sûr, de l'intérêt du nouveau système.
Alors, on va
Donc, on rappelle quand même que pour nous, le premier problème, déjà, c'est la double diffusion.
Voilà.
On aurait très bien pu dire, les radios associatives sont prioritaires, c'est ce qui a été dit, mais sont prioritaires sur le dernier appel, pas sur le premier, de manière à ce que les postes soient déjà en vente, qu'il y a déjà.
C'est-à-dire qu'ils doivent diffuser dès le début.
Déjà, on aurait pu dire ça. Là, on est quand même condamné à rester 7 ans, 8 ans en double diffusion.
Ouais. Donc ce qui double nos
budgets. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura un financement. Pour l'instant, on n'a rien vu sur le financement. Et comme beaucoup de radios associatives, on a parlé au début de l'émission, il y a des radios associatives qui ont disparu pour des problèmes financiers. Notre budget, il est très serré. C'est-à-dire qu'on arrive à l'équilibrer, on demande des subventions, on va pleurer, on demande des cotisations aux gens qui font les émissions. On travaille avec beaucoup de bénévolat. Et notre budget, il est équilibré. Il est équilibré, mais il faut pas grand chose pour le déséquilibrer et pour Donc, et ça, on n'a aucun moyen pour l'instant de payer cette double diffusion.
C'est intéressant parce que quand on pose la question au CSA, le CSA nous renvoie en fait sur le. C'est pas notre rôle, nous CSA, qui pourtant mène au pas de charge le passage à la RNT, et nous renvoie effectivement sur le gouvernement.
Alors,
et rien n'a été prévu dans ce domaine pour le moment.
Pour l'instant,
on est censé émettre en
janvier. On n'a pas de texte, on n'a pas de chiffrage. Les autres inconvénients aussi, c'est pas uniquement financier. C'est-à-dire que le fait que le système de diffusion fait qu'on est obligé, on est plus entre les mains d'un diffuseur dont on n'a pas le choix. On en a trois. Ils sont trois gros. Donc, ces gens-là peuvent très bien dire un jour, mais il faut passer au commercial parce que sinon, je ne pourrais pas continuer à vous diffuser. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. On n'est pas protégé.
Et quelque part, il y a une présélection encore sous-jacente puisque on voit bien que si, par exemple, dans le regroupement, dans le multiplexeur, une ou deux radios ne peut pas payer sa quote-part, on va dire ça comme ça, elle peut être, à un certain moment, éjectée.
Absolument. Alors justement
à long terme.
Alors justement nous là puisque le CSA a attribué donc ces canaux, je sais pas comment les appeler, ils ont quand même mis dans le même multiplexeur toutes les radios associatives.
C'est pas une distribution, enfin une affectation totalement figée encore.
Moi je vois multiplex 1 Radio France, multiplex 2 donc Europe 1, LCI, RTL. Bon enfin bref, multiplex 7 le dernier, c'est les radios associatives. Il y a regroupé toutes les radios associatives dedans qui sont toutes dans la même situation et qui n'ont toutes pas les moyens de payer la double diffusion. Donc la question, parce qu'il y a quand même une sanction, enfin, il faut dire la chose, à partir de janvier on est censé émettre en RNT et en RTien et de continuer à émettre en RTien.
Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais si on veut garder notre auditoire,
si vous voulez,
c'est indispensable. Encore.
Mais à partir du moment où on n'est pas capable d'émettre, donc je sais pas, au bout d'un, deux mois, deux, trois mois, le CSA est capable de nous mettre en demeure. De rendre la fréquence, le canot,
donc c'est
ce qui libérerait évidemment une case pour d'autres.
Bien sûr, parce que à ce moment-là, au niveau de la diffusion, déjà on serait une charge supplémentaire pour ceux qui diffusent. Hein, les postes défaillants dans un multiplex, un poste défaillant donc qui ne peut pas payer la diffusion, bah, la diffusion, elle coûte le même prix, donc elle va être répartie sur les différents postes.
Alors, il y a quand même l'expérience du passage à la TNT, qui a eu lieu il y a à peu près 5 ans, où on avait promis aux chaînes, aux chaînes associatives, hein, Monts et Merveilles, qui ont discuté pendant 1 à 2 ans pour obtenir un petit bout de fréquence qui serait financé par les autres, parce qu'il n'y avait, avait pas de raison. Hein, c'était pas des,
ça devait
des,
même être financé sur les publicités.
Voilà, mais ce n'était pas des très très grandes radios, elles n'avaient pas des moyens, enfin, par rapport aux mastodontes auxquels avaient à faire face, ça ne demandait pas grand-chose. Télévision, pardon, télévision. Excusez-moi, c'est toujours un lapsus difficile. Et elles n'ont rien eu.
C'était le cas de Zaléa, par exemple, qui était dans cette maison, hein, dans maison des associations ici,
AG45,
qui avait déposé un dossier pour la TNT, qui a été retoqué. Et il suffit de voir effectivement le paysage de la TNT. C'est des chaînes qu'on retrouve sur le câble, qu'on retrouve sur multiples formes, et les chaînes associatives, elles sont très peu présentes sur la TNT. Donc, je crois que la question est très pertinente. Est-ce que, en bout de course, on ne risque pas de se retrouver avec cette même logique, effectivement, de radios associatives qui auront financièrement un mal fou récupéré ensuite par des plus gros qui pourront avoir un autre.
C'est bien notre inquiétude. C'est pour ça aussi qu'on essaye de faire le maximum d'informations pour dire aux gens, ben voilà ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que tout n'est pas rose, on a beaucoup de soucis. C'est pas immédiatement. C'est-à-dire que demain, on diffuse toujours en modulation de fréquence. On va revenir des vacances au mois de septembre, on sera toujours en modulation de fréquence. Mais l'espérance, elle risque. Et alors, c'est pervers parce qu'en plus, on nous a donné la priorité.
Voilà.
C'est-à-dire que on nous a pas interdit, au contraire, on nous donne une priorité, mais on nous donne une priorité qu'on ne pourra pas exercer si on n'a pas le financement.
Mais alors c'est ça qui m'échappe, Claude, c'est qu'il y a tu me l'as dit, il y a un deuxième appel d'offres
pour d'autres régions.
Pour d'autres régions, donc
pour régions.
Paris, c'est le
normalement pour Paris,
si on n'est pas
terminé.
Défaillant, c'est terminé. D'accord. Alors il faut quand même préciser qu'aux États-Unis, ça marche pas comme ça, hein, puisque aux États-Unis, qui sont passés au numérique. À la radio, à la RNT, on appelle ça le must carry, c'est-à-dire qu'on impose aux diffuseurs et aux multiplexeurs d'avoir une radio associative par
Oui, c'est un pays qui est très libéral, mais où les gens sont très attachés à leur radio locale. Avec ou sans publicité, aussi. Et communautaire, ils sont très attachés. Et là, plutôt que de faire un jeu de subventions qui couvre plus ou moins là, le deal, il n'est pas compliqué. On va dire, les chiffres ne sont pas forcément exacts. Et puis, en plus, en fonction des faisceaux, en fonction des régions, les chiffres ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est pour démontrer comment ça fonctionne. Hein. On va dire que, par exemple, sur un faisceau qui comprend normalement 9 radios, hein, il y en a 7 commerciales qui vont être vendues. Hein, et il y en a 2 qui sont réservées aussi au secteur associatif.
Et donc, ils sont exemptés de diffusion.
Ils sont exemptés
de
prix. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils amènent leur émission aux bandes du multiplexeur, hein, et eux, ils ne payent rien. Les frais sont couverts par les autres.
Et alors, quand on fait valoir cet argument-là, donc à la fois au CSA, quelle est la réponse?
Alors, la réponse, c'est l'Europe ne veut pas. Pourquoi l'Europe ne veut pas? Parce qu'il serait question de concurrence déloyale.
Ah bon? Eh bien, écoutez, je suis ravi de savoir que nous sommes en concurrence avec TF1.
Oui.
ça nous rassure ici.
Voilà. Et de concurrence déloyale. Hein.
Et déloyale, surtout.
Déloyale.
Et non faussée. Voilà. Non, mais il faut savoir que donc, les États-Unis, qui sont un peu plus libérales, un peu plus commerciales, ont quand même mis en place un système qui apparemment fonctionne.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un respect des minorités, un relatif respect des minorités aux États-Unis.
Ouais,
parce
pas
que
toujours, je
finalement.
Sais pas.
Non mais je pense aux radios communautaires par exemple. Non mais c'est une boutade, mais je pense aux radios
des chaînes de télé comme ça, voilà, sur le câble.
Je pense aux radios communautaires. Finalement, tout ça c'est un public qui échappe d'une certaine manière au commerce, au grand groupe. Est-ce qu'il n'y a pas et pourtant aux États-Unis on autorise cette espèce de niche non commerciale. Est-ce que en ce qui nous concerne, hein, c'est pas un peu aussi on ne représente pas des parts de marché pour des diffuseurs, enfin pour d'autres radios. C'est-à-dire des niches de pour certaines. Alors nous, on est très spécifique, on est très politisé, on a un public particulier. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette démarche de vouloir étouffer toute diversité
On se demande.
On peut se poser la question. Ça, on n'a pas la réponse et on ne l'aura pas de manière. Gens se défendent au contraire.
Par le biais financier, moi je pense qu'il y a cet objectif là. Il n'est pas explicite comme ça, il n'est pas dit explicitement, mais par le financement, il se fera, je ne veux pas dire naturellement, parce que rien n'est naturel, mais il se fera par cette voie-là. Comme ce qui s'est passé, c'est ce qu'on le rappelait tout à l'heure, quand il y a eu les radios pirates. On revient curieusement, très très curieusement, on revient quelques années en arrière, et effectivement on est dans cette logique là donc on va peut-être rappeler, puisque le temps se termine, donc le temps passe vite, on peut donner un calendrier un petit calendrier de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, un petit peu par rapport à ça et surtout à la mobilisation qu'on a appelée, parce que nous on rappelle quand même qu'ici on demande le maintien à part égale de la bande FM, que le numérique puisse exister, ça c'est une chose, mais on demande le maintien de la bande FM pour que tout le monde puisse capter FPP et voilà.
Et on demande aussi les moyens. Alors,
déjà dans un premier temps, puisque de toute façon notre auditoire est équipé en FM, donc le maintien bien sûr de la FM. Hein. Et puis si à long terme la FM doit disparaître, c'est pas nous qui arriverons à faire décider le fait que la FM, je ne pense pas, on peut toujours espérer, on peut toujours dire notre avis. Il faut que l'on puisse garder notre zone de diffusion, hein, et notre indépendance financière. Notre indépendance financière et les moyens de vivre.
Et idéologique aussi.
Idéologique. C'est-à-dire que rester sans moyens de pression.
Tout à fait.
Tel qu'on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire que, une société qui vend des yaourts, par exemple, ne peut pas venir nous voir en disant, dites donc, que vous n'avez pas dit du bien parce que vous avez licencié quelques personnes. Je fais partie de l'émission du chômage, donc je connais le problème de licenciement. Non, la société ne pourra pas venir nous dire, vous n'avez pas été gentil parce que...
Donc pas de financement privé. Essayez d'éviter tant qu'à faire le financement.
Pas de financement privé, bien entendu. Et même le financement doit être le plus étatique possible, en réalité.
Oui, alors il faut expliquer que la taxe parafiscale, elle était très pratique parce que le législateur pouvait difficilement la modifier. J'avais cru comprendre que personne n'a jamais touché au fonds de soutien radiophonique.
Alors si, on commence à y toucher.
On commence à y toucher.
Justement. À y toucher, c'est-à-dire qu'il y avait le SFER plus une taxe annexe qui était liée. La taxe annexe, elle arrivait bien plus tard, je crois, et puis de toute façon, elle est amputée. Hein. Et on nous dit, mais ça fait des demandes de d'autres subventions, les régions sont prêtes à faire des subventions. Mais déjà, la subvention, la région, c'est plus près de nous.
Oui, tout à fait, oui, c'est pas la même.
Donc, c'est pas encore la petite entité, ce n'est pas l'épicier du coin, bien entendu, mais ça peut déjà avoir une influence. Alors qu'avant, c'était vraiment l'État. D'accord. Voilà.
Un mot pour conclure, Joël ou...
Il faut qu'on continue à lutter pour le maintien de notre service, c'est très important. Vous rappelez donc qu'il y a ce site, donc Radio en lutte, tout attaché avec un S pour radio.free.fr. Nous contacter à la radio, nous soutenir, c'est très très important parce que c'est pas seulement la radio des gens qui parlent à l'intérieur, mais aussi c'est aussi celles qui sont à l'extérieur qui nous écoutent. Et ça, je crois que c'est très très important. Pourtant, on l'a fait pas pour nous, mais on l'a fait aussi pour d'autres. Et ça, c'est une mine d'informations vraiment inestimable. Donc, si ceux qui nous écoutent ce soir, ils ont envie de soutenir cette radio, qui nous contacte, et on aura besoin dans les mois et les années qui viennent de ces soutiens financiers bien sûr, mais aussi amical et autres, parce que voilà, on peut pas faire sans vous. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.
Merci bien, au revoir.
Bonsoir, au revoir.
Quand j'écoute ma radio dans la voiture, je me dis souvent, s'il y avait un écran sur mon autoradio, je pourrais conduire avec un œil sur la route et un œil sur la pub.
passage des radios numériques, le nombre d'accidents de la route va augmenter.
Plus d'infos sur la radio numérique et pétitions à signer en soutien aux radios libres non commerciales sur radiosenlutte.free.fr.
Radiosenlutte.free.fr.
Je voudrais que tout le monde s'imprègne.
Merde.
Tout le monde s'imprègne de cette.
C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia.
Monsieur l'abbé, regardez votre soutane, elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de synode.
Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons. Je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service.
Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pain naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel.
Jésus-Christ dans le silence du jardin des oliviers, qui je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc ses tuniques, inventé l'autocritique. Ah.